Bonjour à tous, ici Joseph de l'Aubéline et Pascalois de la Dérinoise pour votre lecture des citations du jour.
on disait que tu lis un prion en église. C'est vrai qu'on avait dans les églises, dans le temps qu'on allait se faire brainwasher. Ouais. Au primaire.
Il est grand le mystère de mon foie.
Ce matin, gang, on fait les 10 citations essentielles pour ton développement personnel. C'est des citations qui sont importantes pour moi. J'ai sorti un peu mes bookmarks cette semaine pour vous inspirer. Puis par la suite, vous pourrez faire le devoir de recherche si ça vous tente pour aller un petit peu plus loin sur les sources de ces citations-là. Mais c'est ça, on va sortir de la torpeur, de la demi-tempête qui est arrivée hier. On va se remettre du soleil dans le cœur. On va avoir une roquette d'infouf pour un week-end hyper motivant. Fait que gang, on commence ça. Sortez vos tisanes et votre patchouli. s'inspire à partir de right now.
Et on s'inspire avec la première semi-citation qui est devenue célèbre.
And fucking joy! Et d'ailleurs, maintenant, notre nouvelle marque de commerce, il va quand même falloir qu'on s'en fasse un t-shirt sur le podcast, mais vous l'avez, le GIF disponible sur les réseaux sociaux. On l'a soumis la semaine passée ou téléverti dans les répertoires de GIF officiels là, utilisés par Facebook. Tout ça, je pense que c'est GIF Hub ou whatever, je ne m'en souviens plus, là, mais c'est rendu là. Fait que si vous cherchez Sensei Pascal, Jouer au B, podcast, Yann et Frank, and fucking Joy, enjoy, vous devrez trouver cette grosse facelette-là. Fait que, puis gang, dans les commentaires, si vous voulez inscrire vos citations inspirantes, là, on pourra peut-être en lire 2-3 à la fin du podcast. C'est tout le temps le fun de partager ces choses-là, ce qui vous fait vibrer. Puis aller jusqu'à regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que la dernière, la numéro 1, là, c'est ma phrase préférée. Tellement préférée que c'est celle qui est inscrite sur le mur de mon gym à Saint-Julien Spartan Fit. D'ailleurs, si vous êtes membre d'un comité ou si vous connaissez des gens qui cherchent des activités hyper tripantes pour leur fin d'année à l'école, pour les camps de jour, pour les activités corporatives, on vous propose le nouveau parcours mobile qui est en train de construire plein de nouveaux obstacles pour notre parcours 1, 2, 3 Ninjago. Et ça, c'est disponible, les informations, puis on se déplace partout dans la province à 123ninjago.ca. Ça va me faire plaisir d'emmener notre parcours avec notre petit camion chez vous pour s'amuser. Donc, on commence. Citation numéro 10, Marie Curie, qui a dit « Rien dans la vie, on doit avoir peur de rien dans la vie. » C'est en anglais que je lis, parce que je vais le dire en anglais.
Même pas des radiations? Non, c'est pas ça. Hein? On doit avoir rien de peur dans la vie, même pas les radiations, parce que Marie Curie est morte de radiation avec des études, je pense que c'est sur l'uranium, je pense, en tout cas.
Comment ça? C'est fluorescent, ça. C'est pas grave. Ça me fait de la lumière pendant que je fais mon travail.
Va mourir à 46 ans, mais c'est pas grave.
Depuis mon nouveau laboratoire, j'ai quelques boutons dans le cou, mais ce n'est pas grave, ça doit être les acariens.
Mon mur à chêne en bois va me protéger.
Je me suis mis du papier d'aluminium autour de la tête, mon cerveau sera intact. Je pense même pas que ça existait, le papier d'aluminium.
Ouais, c'est ça, j'allais dire la seule fois que les casses en foie, il aurait pu servir à quelque chose.
T'sais. Et elle l'a échappé, elle l'a droppé. Okay, ouais, Marie Curie disait « Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. » En fait, c'est une citation sur l'ignorance populaire. Et cette belle ignorance-là et la peur et tout ça, on l'a vu récemment dans deux situations dans les dernières années. Ça a été la pandémie de la COVID, qui a été un fear fest extraordinaire, qui a bien démontré l'ignorance globale de même nos dirigeants, surtout eux autres. Et voilà, une semaine ou deux, toute cette psychodramatique autour de l'éclipse totale, alors que je disais à une amie, hier, une membre de mon gym, on discute des fois de façon philosophique ou un peu plus profonde à la fin de nos entraînements, on échange des choses, c'est super le fun. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on s'en va depuis des années, là. C'est pas depuis hier, là. Depuis des années, depuis une bonne décennie, là. Qu'on revient, puis je vais en faire quasiment un texte de maîtrise ou de mémoire, là. Mais on revient dans une époque que moi, j'appelle le Moyen-Âge 2.0. C'est-à-dire qu'à l'époque du Moyen-Âge, le peuple était resté ignorant, par contrôle du savoir, par les forces en présence, par les têtes grises, le clergé.
L'église.
Comment?
Hashtag l'église.
Ouais, genre ça. Puis maintenant, c'est nous qui nous tenons ignorants par notre propre effort. Fait que c'est le peuple qui se tient sciemment ignorant. Fait que les gens au pouvoir n'ont même plus besoin de faire quoi que ce soit. Eux autres sont rendus qui rient, mais en nous regardant aller de façon grotesque, là. Et on conditionne notre ignorance par nos réseaux sociaux, par notre gros égo. Et là-dedans, vous avez le principe de la double ignorance. La double ignorance, c'est de ne pas savoir qu'on ne sait pas. Puis ça, c'est hyper dangereux. Quand tu passes au deuxième stade, c'est que tu sais que tu ne sais pas. Tu as déjà une preuve d'ouverture d'esprit puis un pas en avant dans ton développement personnel et dans ton gain de connaissances. Puis tu as un autre step en avant qui est de « je sais que je ne saurai jamais », qui est comme l'autre step de prise de conscience, de prise de connaissance ou d'avancement de ton niveau de connaissance, qui est un peu le dernier. Donc, cette citation-là de Marie Curie me rappelle ça.
Donc, plus on est ignorant. Numéro 10, à cette heure, numéro 9. Oui, on a un nouvel effet sonore pour vous, les chers auditeurs.
Gagne, puis tout.
Yes.
All right. Celle-là, à chaque fois que je l'entends, j'ai les yeux pleins d'eau. En tout cas, quand je la vois, parce que c'est une citation dans un film. C'est « Kung Fu lives in everything we do. It lives in how we put on a jacket, how we take off a jacket, and lives in how we treat people. Everything is Kung Fu. »
Karate Kid, ben oui.
Dans le Karate Kid, le nouveau Karate Kid avec Jaden Smith. Puis je vous mens pas, là. Je vous en parle, puis j'ai des frissons, là.
As-tu hâte au prochain, Pascal?
Ben, le prochain, je ne sais pas s'il y a un autre film, mais là, il y a Cobra Kai 6 qui va sortir. Là.
Ben, en fait, c'est qu'ils vont faire, semble-t-il, je ne sais pas si c'est la suite de Cobra Kai, mais ils vont comme fusionner Cobra Kai puis la version Jaden Smith. Fait qu'il va comme avoir Jackie Chan puis Daniel San dans le film. Là. Fait que,
je sais qu'il y avait un casting call pour le tournage du nouveau Karate Kid à Montréal. Ça, j'ai reçu ça.
Ah, ben, écoute donc. Vas-y, Pascal, même si ce serait juste figurant. C'est quasiment un rêve de jeunesse, quasiment, là, les films qui t'ont inspiré, je sais pas.
Ouais, je pense que je vais tout le temps. On sacrait d'or après deux semaines, mais moi, tout le temps après au mollet de Jackie Chan. C'est comme, ramène-moi avec toi,
À ce temps que l'industrie du cinéma, tous les méchants doivent être des hommes blancs hétérosexuels, tu pourrais y aller et être le méchant. Ça serait pas
pire. Ah, c'est vrai, j'ai un bon casting. Vous avez déjà fait de la comédie un petit peu. C'est quoi? Ben, je suis homme blanc, je suis hétérosexuel.
Connais les arts martiaux un peu.
Universellement reconnu. Vous devriez m'engager. Je porte seul sur l'écran. Vous allez voir. Je peux faire des coups de poing. Elle va te montrer. Là, je peux te faire des coups de poing dans le vide. Mais quand je vois. Oui, j'ai. Toute réponse à ça, c'est oui. J'ai tout tort à ça. Moi, je n'avais pas lu qu'il allait fusionner la réalité du Karate Kid de Jackie Chan dans la saison 6. Si ça l'est, don't spoil me.
Non, mais c'est ça.
C'est tellement hâte que ça sorte, là, ça
passe. J'ai aucune idée comment ils vont faire ça, là, mais semble-t-il qu'ils vont comme fusionner ces affaires-là. Fait que je sais pas si ça va être un film à part ou là, justement relié à Cobra Kai, là, mais quand même.
C'est une excellente série, d'ailleurs, si vous voulez. Pas la saison 3 qui était un peu exagérée, là, avec le school fight à la fin qui était complètement exagéré. Ça aurait pris 30 secondes que la police serait arrivée, puis les médias avec, là, puis finalement, il n'y a personne, il n'y a rien qui se passe à part quelqu'un qui se brise le dos. Oups, spoiler.
Ouais, c'est la seule affaire un peu dans ces séries de karaté-là, c'est que, premièrement, il n'y a jamais personne qui a un gun dans cette série-là. Tout le monde se tape à main nue.
C'est écœurant. Si vous trippez Karate Kid, d'ailleurs, le kata de la famille Miyagi, c'est un kata de Goju Ryu, Sien Shin. Fait que c'est un kata que je faisais en compétition. Fait que c'est drôle de voir, c'est Daniel Machio qui, non, c'est pas ça, son Raph Machio qui faisait le kata que j'ai pratiqué pendant des années. Fait que c'est ça, un petit peu de recherche du côté des arts martiaux. Mais cette citation-là, moi, à chaque fois que je vois Karate Kid, c'est un de mes films préférés, celui-là. Là. Je le trouve tellement beau dans le setup en Chine. Mais cette citation-là me demande des larmes aux yeux à chaque fois. Un, par la passion dans laquelle c'est dit. Et deux, parce que je me raccorde beaucoup à cette citation-là. Et trois, parce que c'est tellement vrai. C'est tout ce qui est arts martiaux, tout ce qui est de ces démarches qui ont une certaine base philosophique. En tout cas, je vais vous parler du karaté que j'ai enseigné pendant 10 ans. Là, ça fait encore partie de moi, ça fait partie de mon âme, de mon être. Puis c'est pour ça que j'ai mérité le titre sensei. C'est pas par prétention. On me l'a donné après 12 ans de dévouement. Puis bien des blessures que je guéris encore aujourd'hui. Mais l'enseignement que l'on fait dans les arts martiaux, ça ne doit pas rester entre quatre murs d'un dojo. Fait que dire oui, sensei, non, sensei, se pencher à la bonne distance, montrer du respect, avoir de la détermination, de l'intégrité, développer une discipline, se dépasser, se tenir droit, avoir une bonne posture, avoir une assurance, tout ça qu'on développe entre quatre murs d'un dojo, c'est pas fait pour rester entre quatre murs d'un dojo. Le karatéka ne meurt pas à chaque fois qu'il enlève son gi et renaît pas à chaque fois qu'il remet son gi. Les arts martiaux devraient nous. Ce qu'on apprend dans ces démarches-là, c'est fait pour, au contraire, nous accompagner à l'extérieur de l'espace d'entraînement ou de l'espace d'enseignement. J'aimerais plus dire ça, c'est un espace d'enseignement. Fait que quand vous amenez, moi ce que je disais aux parents, surtout aux mères, parce que pas de cachette, 75% des parents qui accompagnaient leurs enfants à mon école de karaté, c'est des mères. C'est les mères qui s'occupent des activités, c'est eux autres qui bookent. C'est pas pour rien que Rouge FM est plein de spot fest. Parce que c'est elles encore prouvées qui font les décisions dans les ménages au niveau des activités. Ce n'est pas une totalité, je dis que c'est une majorité. Envoyez-moi pas vos hate tweets. Mais est-ce que ces familles-là me demandaient si on cherchait un sport à faire à notre enfant, puis tout les arrêtait. Si vous venez pour chercher à faire un sport, vous allez être déçus. Ce n'est pas un sport ici. C'est un enseignement alternatif et complémentaire à l'enseignement académique que votre enfant a à l'école. À l'école, on apprend à faire des 1 plus 1 égale 2. On apprend à conjuguer ses verbes, on apprend sa géographie. Au karaté, on apprend à vivre. Et c'est malheureusement des notions qui ne s'enseignent plus à l'école. Tout ce qui est art de vivre à l'école, là, ce que je comprends, c'est que c'est du bourrage de crâne de wokisme, c'est de la victimisation à outrance, puis c'est de l'anxiété, là, c'est anxiogène à côté plus, là, voire note plus haut, la COVID et l'éclipse. Alors que dans un dojo, c'est bien fait, tu apprends à respecter l'autorité, tu apprends à avoir une discipline dans ton travail, tu apprends à développer surtout une grande confiance en toi, à te découvrir comme être humain pour grandir. C'est tu viens, tu es comme ça. Mon cheminement, c'était pas compliqué avec mes élèves. Ils rentraient, là, souvent, c'était comme ça. Puis au fil des ceintures, ça sortait, c'est rendu de même. Puis là, ma paye présentement, là, puis ça a tout le temps été ça, ma paye, parce que j'ai pas devenu riche à faire un temps prof de karaté. Là. Moi, ma paye, c'est de voir mes élèves grandir au fil des ceintures. Puis les voir encore aujourd'hui, puis il faut croire que pour les défauts que j'ai, je fais quelque chose de bien, parce que j'ai encore plein d'élèves qui, malgré ça fait 5-6 ans que j'ai plus mon école de karaté, viennent à mon gym, où on s'est organisé récemment un get-together de tous mes anciens élèves à mon centre d'entraînement. Puis c'était une soirée remplie d'amour. C'était mal mental. Fait moi, je vais être tout le temps reconnaissant pour ces gens-là qui sont la richesse de ma vie. C'est pas mon compte de banque, c'est ces gens-là. Donc, il faut croire qu'il y a eu quelque chose qui s'est bien passé dans ce temps-là. Puis pourquoi je fais ce détour-là? C'est pas pour me donner des tapes dans le dos de façon égocentrique. C'est pour vous dire que ma paye aujourd'hui, c'est de voir ces gens-là 4-5 ans après ces jeunes-là, puis me souvenir au premier cours de ceinture jaune, au premier examen, comment ils étaient, puis comment maintenant c'est rendu des jeunes garçons, des jeunes adultes, puis sont droits, puis sont de même, puis sont fiers. Moi, ça fait comme waouh, les voir grandir, c'est magnifique, c'est ma paye. Fait que vous voyez, en tout cas, j'espère que vous ressentez la passion derrière mon propos, que vous le voyez dans mes yeux. Puis je reviens à la citation de Mr. Hun. Quand il dit ça, mais c'est tout ça qui s'englobe, parce que c'est ça, everything is kung fu. C'est quand il met quand tu mets un manteau, accroche-le comme du monde. Pourquoi laisser tes bottes traîner dans le passage, tout croche, alors que ça te prend 7 secondes et 3 quarts à les prendre puis à les mettre au bon endroit? Et ça t'enseigne une discipline de faire des façons correctes, de te présenter de bonne façon. Hey, je fais la même chose au gym avec mes adultes. Ça rentre, ça enlève le chouclac, ça met ça dans l'entrée. Il faut que je lui dise mettre ça dans un casier. Les casiers sont où? À exactement 3 pouces au-dessus des bottes. Parce que c'est moi qui ai passé 3 heures à le monter, le Christy de casier IKEA, puis à le fixer au mur pour que tu mettes tes bottes dedans. Fait, il sert à quoi? C'est pas un jeu de tic-tac-toe géant de Connect Four. Mets tes Christy de bottes dedans. Fait, c'est tout ça qu'il y a dans la quote de... je parle beaucoup de temps parce que c'est une de mes préférées dans le film de Jackie Chan. Il y en a une autre que... on peut faire le gong.
Oui, numéro 8.
Il y en a une pour qui, le côté auteur est encore débattu. C'est Dr. Seuss, mais c'est pas Dr. Seuss. Il y a plein de noms. Là, je viens de lire justement ce matin une petite recherche rapide là, qui essaie de, de capturer qui a mentionné ça en premier. Fait que c'est très vague. Fait que dites si c'est ou pas Dr. Seuss, mais je l'adore, celle-là. C'est « Be who you are and say what you feel because those who mind don't matter and those who matter don't mind. Mm. » Une très belle leçon pour être vous-même, puis de vous émanciper du jugement des autres. Donc, vous voyez ça d'une façon peut-être un peu plus globale, mais dans la perspective où si vous osez être vous-même et dire ce que vous pensez dans les façons correctes de le faire, là, on ne parle pas nécessairement d'anarchisme, d'expression de soi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous avez des gens, puis il y a ça dans le livre « The Four Agreements », c'est clair, clair, clair. D'ailleurs, si vous n'avez jamais lu ce livre, si vous n'avez jamais écouté 5, 6, 7 fois cet audiobook en prenant des notes, fortement recommandé de le faire. Pour moi, c'est un ouvrage qui est transcendant, qui va changer votre vie. On me l'a vendu de même, je ne le croyais pas, puis c'est ça que ça a fait. Donc, je vous offre le même cadeau, j'espère. Les Four Agreements, et en anglais, le narrateur est impeccable. Il te fait rentrer dans le propos du livre très rapidement. Mais en ce sens de vous respecter là-dedans, puis dans votre expression, d'avoir la perspective suivante. Souvent, vous allez avoir peur d'être vous-même. Vous allez vous garder dans un carcan, dans une boîte, par manque d'estime personnelle, par manque de vous affirmer comme personne. Puis ça, il y a un gros processus là, pour pouvoir atteindre ça. Moi, je vous parle juste de la perception. On s'empêche d'être ça ou de dire quelque chose parce qu'on a peur de la réception et de la réaction d'autrui qui est en fait une validation de qui je suis comme personne. Et ça, c'est pas une bonne perception, là. Je vous dis que à tort, on perçoit le retour sur notre émission comme une validation de notre qualité.
Ouais, c'est un peu en lien, ben, tu sais, la fameuse quote célèbre qui non ne vient pas d'Einstein, même si plusieurs le disent. Je pense que c'est Edmund Burke qui disait ça. Tu sais, la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est les bonnes personnes qui font rien. Tu sais, fait que c'est un peu ça dans le sens, c'est l'inaction des personnes qui fait que justement que des bad things can happen. Tu sais, des trucs comme ça. Fait que je pense que ça rentre un peu dans.
J'ai ton oui, citation non. Ce que la quote veut dire, c'est qu'arrêter de donner de l'importance au jugement des autres. Parce que ceux qui vous jugent n'ont pas de valeur. Et ceux qui ont de la valeur ne vous jugent pas.
C'est ça.
J'ai fait un gros diatribe pour l'expliquer, puis j'aurais dû le finir en deux phrases de même. C'est « that's it, that's all ». Arrêtez de vous soucier des « grow some freaking balls », puis réalisez ça, que ceux qui vont vous juger, leur jugement va au « sweet and fall ». Ils sont beaucoup, puis c'est pas grave. Quand même que tu fais 100 fois 0, la réponse est 0. Mais si tu fais une fois 50 d'une personne de valeur, ça fait 50. La valeur, elle est là. Les gens qui vous aiment pour vrai, les gens qui sont là pour vous, vous jugeront pas. Fait que c'est un win-win. Fait qu'arrêtez de donner de l'importance à des gens qui jugent. Vous êtes en train de mettre votre focus sur la mauvaise direction. Ça, c'est une attitude aimante. Il y a des gens qui sont un aimant. Malheureusement, je trouve que c'est beaucoup de personnes qui ont un aimant à ce jugement populaire de gens qui ne sont pas importants. Pourquoi focusser sur les trois personnes qui t'ont mis un thumbs down sur les internets? Puis là, c'est quelque chose de vraiment superficiel que je te dis. Là. Au lieu des 450, parce que les deux valent zéro plus une barre, à mon avis, c'est pour te donner une image. Pourquoi on focus sur le commentaire négatif qui est rentré d'un troll sur Internet? Ta mère, elle t'aime encore. Comprends-tu? Ta blonde, elle t'aime encore. Tes enfants, elle t'aime encore. Tes amis, quand ils sont dans le caca, sont encore là. Je pense que c'est plus important qu'un Christine Gnochon qui a un gros cul sur Twitter. Parce que le trois quarts des trolls sur Twitter, c'est ça. C'est pas des gens qui ont une vie trépidante. Parce que, en tout cas, je vais vous le dire, j'ai pas le temps de chialer sur Internet, à part des fois le vendredi matin. Parce que sinon, sur Twitter, j'ai pas de négatif à se piler. Mets-toi dans les bobettes de cette personne-là qui là est en train de passer une heure à 11h17 le soir un mardi. Puis tout ce qu'il y a à faire, c'est pas préparer sa journée du lendemain avec enthousiasme et ou fatigue accumulée par dur labeur. Mais c'est juste parce qu'il est seul et il n'a rien à faire de sa crise de vie. Il a fait des mauvais choix. Il est en train de tousser sa troisième cigarette. Puis il se gratte l'arrêt en se disant « Je suis donc bien pas chanceux. » Fait que ces gens-là, peut-être que le jugement ne vaut pas la chandelle. Cette expression de marde. Tu sais, ça vient, ça vaut une chandelle. C'est qui a inventé ça encore? On va le chercher, on va le trouver. Fait que voilà, ça c'était le numéro 8. Numéro 7!
Numéro 7!
John Lennon. Life is what happens to you while you're making plans. Et cette phrase-là, j'ai sorti souvent dans les derniers mois ou dans la dernière année à plusieurs amis. La vie, ce is de vos plans. Ça, c'est quoi la notion? C'est la notion de arrêter d'essayer de contrôler la vague, la vie avec un grand V. Vous ne gagnerez jamais et vous allez cultiver une multitude de déceptions. Ça, c'est un deuil que j'ai appris il y a 7-8 ans avec une grosse séparation. Où là, tu essaies de vivre la vie par le modèle, c'est-à-dire d'abord, ben là, il faut que je gradue de l'école, puis là, il faut que je me trouve une occupation qu'on appelle un emploi. Après ça, il faut que je me trouve une conjointe, un conjoint, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on commence à parler d'enfants. Puis tout ça doit arriver dans un time frame d'âge acceptable, entre guillemets. Puis acceptable par qui? Mais on ne sait pas, mais tout le monde dit acceptable. Puis tout le monde vit selon un livre de règles. Puis qui a écrit ce livre de règles-là? Tout le monde se regarde en disant « Je ne sais pas, toi, tu sais-tu? Non, je ne sais pas, toi. Je ne sais pas, mais on fait tout ça, mais on fait tout ça. OK, OK, on fait tout ça. » On est sur un tapis roulant avec une valise dans les mains, puis on se laisse porter jusqu'à temps qu'on meurt.
Et c'est aussi pour ça que les plans triennales sur 5 ans de nos chers gouvernements puis les politiques de all across the board, ben ça marche rarement. Parce que, comme dans toute dans vie, puis tu le dis très bien, not is all according to plan. Là, tu peux bien planifier comme tu veux, mais la vie est imprévisible. Et c'est ça qui fait sa beauté aussi.
Ben, c'est exactement ça. Fait que, moi, ce que j'ai appris avec cette épreuve-là, c'est au lieu d'essayer de contrôler la vague avec mon surf, pendant un bout de temps, je me suis échoué sur mon surf et je me suis laissé porter par la vague. Puis après un certain bout de temps, j'ai appris à me lever sur le surf puis à commencer à apprécier la vague. Puis là, présentement, je suis sur une christie de belle vague. Puis je pense que ça c'est attribué à cette attitude-là que j'ai cultivée dans les dernières années. Puis ça m'a emmené dans des chemins. Là, je suis rendu propriétaire de gym. À Sainte-Julie, avec des parcours d'obstacles, puis je fais plein d'événements, puis je fais du fitness, puis là, 8 ans, j'étais en karaté, puis avant ça, j'étais directeur des coms, puis avant ça, j'avais une école de lutte, puis avant ça, j'avais un autre job, j'étais à la radio. J'essayais d'avoir... Je me souviens quand j'ai eu ma job de directeur des communications dans un centre affilié à l'UQAC à Montréal. Puis là, j'étais comme, là, c'est le temps que j'avais un vrai bon garçon, une vraie personne. Là, je vais me valoriser comme tout le monde, je vais avoir un emploi, puis là, c'est la vie pour vrai. Puis j'essaie de vivre selon le modèle, puis rentrer dans ma voiture 9 à 5, puis le Christy de trafic entre Longueuil et Montréal, hein, clic, clic, papaf. D'avoir ma job dans mon bureau, puis d'avoir des convocations Outlook, puis j'ai essayé ce modèle-là. Là. Puis je suis devenu vert pâle en 3 mois. Puis j'étais pas heureux là-dedans. Mais aussi là-dedans, il n'y a pas juste l'emploi, mais il y a ta perception de toi-même par rapport à tes relations interpersonnelles, par rapport à familial, t'es rendu où. Tu sais, c'est pas de faire un 10 sur le travail de bureau, l'idée. Là. L'idée, c'est de vous faire réaliser que vous vivez votre vie selon une call sheet, des bullet points sur une feuille que personne n'a écrit, mais pour une raison X, vous avez tout dans votre valise. Fait que si on peut s'émanciper de ça, je peux faire des plans, mais demain matin, moi, j'avais prévu dans ma vie de présenter mes enfants à mon père. Ça n'arrivera jamais, mon père a levé le fleuve de 3 ans. Cancer, 6 semaines, in, out. Puis je connais des gens proches de moi avec qui des situations puis plus dramatiques que la mienne, parce que pour nous autres, c'est un drame, mais life goes on, qui ont fait des plans de futur, puis la vie est tourner de bord. Déjà, juste la santé, là, c'est un gros twist. Fait qu'essayez de vivre votre vie de cette façon-là. D'avoir une orientation générale, c'est correct, mais essayez de faire rentrer tout dans un moule selon une vue obstruée de ce que devrait être la réalité et la vie qu'un grand V. Vous allez vous cultiver des déceptions et du gros malheur. Moi, mon indice de bonheur a explosé depuis que j'ai appris à juste surfer la Christie de vague. Parce que ça sert à rien, là. La vague, elle gagne tout le temps. Puis à un moment donné, moi, je vais mourir. Puis la vague, elle va continuer pour quelqu'un d'autre. Fait que c'est quasiment de l'ego d'essayer de contrôler cette réalité-là. Puis il faut avouer nos vulnérabilités, apprendre à pouvoir surfer cette vague-là, puis de voir à quel point la vie peut être belle, imprévisible, quand on peut être flexible, quand on peut avoir une souplesse, puis qu'on se laisse porter par la vague. Fait que voilà, c'était celle-là.
Good. Numéro 6.
Satchel Paige disait « How old, pas de H là, how old would you be if you didn't know how old you were?
»
Ça, je l'adore, celle-là. Fait que c'est vraiment une leçon de jeunesse de cœur, de pureté d'âme, d'émerveillement. Moi, j'ai un côté enfant qui est très fort, très, très fort. Puis j'ai sciemment gardé ce côté-là pour justement me sentir plus jeune que l'âge qui est sur le baptistère. Puis je suis vraiment, vraiment chanceux. J'ai maintenant quelqu'un qui partage ma vie qui est le même type. Ce qui fait que bonheur est en train de pogner d'un plafonnier parce qu'on est capable de s'émerveiller à pas grand-chose. On est capable de jouer facilement. Ça nous prend pas grand-chose pour être heureux puis être bien parce qu'on peut faire un casse-tête, on est content. On peut se faire un plan d'aller à la ronde, on est content. D'y acheter une bague en bonbons, être heureux. Tu comprends ce que je veux dire? Ces choses-là, c'est un peu la leçon du film Mary Poppins et Peter Pan. Peter Pan, c'est carrément ça. Ils en ont inventé quasiment un nom de syndrome dans le DSM. Les gens qui ne veulent pas vraiment, vraiment vieillir. Mais le fait de pouvoir s'émerveiller, puis c'est pour ça que mon idole aussi, c'est Walt Disney, c'est quand même que ça, tu as du poil gris dans la barbe. C'est pas supposé venir avec une attitude, avec un sérieux. Parce qu'il y a aussi une autre citation qui peut être parallèle à celle-là, c'est prendre... Ça sert à rien de prendre la vie au sérieux parce que personne s'en sort vivant. Fait que garder un cœur d'enfant, un émerveillement, d'arrêter de se prendre pour sérieux. Tu sais, c'est pas à cause que tu as 43 ans, que tu en as 51, que tu fais 125 000 par année, que tu as une BM, je sais pas quel modèle d'encours, que tu es quelqu'un. Tu es un grain de sable, tu fais caca comme moi et tu vas mourir comme nous autres. So, shut the fuck up. Rester cet enfant-là. T'sais, Mary Poppins, c'est à peu près ça. Mary Poppins, c'est pas l'histoire de Mary Poppins. Le film Mary Poppins, c'est l'histoire du père des enfants. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a eu un film après ça, Saving Mr. Banks, que je vous conseille fortement, avec Emma Thompson, à mon souvenir, et Tom Hanks qui fait Walt Disney. Encore un film qui me fait broyer! Mais c'est écœurant la leçon là-dedans. Mary Poppins n'est pas l'histoire des enfants ni de Mary Poppins. C'est l'histoire du père qui est complètement perdu, qui a perdu ses notions d'enfant, sa notion d'innocence, de naïveté, d'émerveillement parce qu'il s'est fait manger par la machine. Il s'est rendu un banquier drabe, gris, malheureux. Puis ça prend la leçon de Mary Poppins à travers ses enfants pour qu'il retrouve le plaisir à la fin du film de faire voler un cerf-volant. C'est que j'ai quasiment dit comme la toune. Donc, c'est une leçon pour Satchel Paige, c'est une leçon de rester jeune, les cultiver. Puis ça va aussi, si vous êtes parent, ça va améliorer votre relation avec vos enfants. Vous allez reconnecter avec cette réalité-là. Au lieu d'être le père plate, la mère plate avec le cellulaire pendant que les autres font quelque chose. Bouge! Va jouer! Amuse-toi! Tu veux que je reviens à mon karaté? « Oui, mais mon fils, ma fille, font ci, font ça. » Moi, ma réponse, là, puis il fallait que je sois poli parce que c'était une réalité commerciale. C'est « T'es-tu regardé? » Non? Mais ta leçon est là. Si tu améliorer ton enfant, quand même, tu me l'amènerais trois fois, deux fois par semaine, 25 minutes dans mon dojo. Je vais faire ce que je peux. Faut que tu sois patient. Tu veux des résultats plus vite? Change-toi. Tu veux qu'il y ait des bonnes habitudes de vie? T'es-tu vu et fouf? Quand est la dernière fois que tu as bougé? Ah, je suis pas sportif. Non, c'est ça, c'est sûr. Moi, on me l'a donné quand je suis parti. Quand je suis sorti du ventre de ma mère, ils ont fait plein vaccin. Là, le vaccin de l'activité physique, lui, ça va être naturel. C'est pas de l'effort, c'est pas de la discipline, c'est pas du conditionnement, c'est pas quelque chose qui s'acquit. C'est quelque chose d'inné, ça. Ça, c'est un talent. Oh, c'est bien, moi, je suis pas sportive. Ben, c'est ça. Ma soeur, elle va pas te plaindre que ton fils, ta fille, a le problème comportemental ou là, t'as de la misère avec. It's first look yourself. Voilà.
Number five.
Moi, c'est une de mes préférées, celle-là. Don't fake it until you make it. That's garbage advice. Face it till you make it. Get up, work hard, fail, stand back up, face it again, do a little better, fail again, get back up, repeat. Ça, c'est le genre de phrase que je veux faire imprimer chez nous dans mon gym. Parce que je suis intellectuellement incapable.
Là, dis pas ça, le QLF va se pointer à Spartan Fit, puis ils vont demander de décrocher ça. Ils vont faire comme ils ont fait avec Pizza Salvatore, ici, bon, les citations en anglais, ils sont allergiques à ça.
Parle-moi-en pas.
Ah, ça
va être parti d'autre chose.
Absolument. Non, mais c'est cœur, hein, sérieusement, ça va être ça, une méchante grosse bannière là-dessus. Hein.
Je vais devenir rouge comme ma bouteille. mais c'est j'adore cette quote-là parce que pour moi, faire semblant que ça va bien quand ça va pas bien, je trouve que c'est du déni psychologique. C'est pas un changement durable, c'est pas une stratégie durable. C'est, comme je l'ai dit, c'est une stratégie qui, pour moi, est de l'évitement, du déni, puis pour moi, c'est intellectuellement malhonnête et débilitant. Fait que je suis pas capable, puis j'embarquerai pas là-dedans. Cependant, j'aime mieux l'approche réaliste que propose la citation, ça fait avec ma latitude que j'aime bien. Ça va pas bien? Ça va pas bien. Ça va bien? Ça va bien. C'est pas, il n'y a pas de modération entre les deux. C'est d'accueillir ce qui se passe au moment présent, d'être capable de le nommer, d'être capable de vivre dedans, de ne pas laisser des débordements affecter notre vie, des deux bords, là. Mettons, là, tu viens de rencontrer quelqu'un, là, tu vis le plein d'amour, là, puis là, t'es comme, oh, comme ça. Tu peux tomber ses nerfs en sacrament aux gens. Ou tu peux prendre des Christine mauvaises décisions. Je l'aime tellement. C'est tellement... On a déménagé ensemble, ça faisait 2 semaines. J'ai changé de travail. Je me suis fait raser la barbe. Je me suis acheté des nouveaux parfums qui sentent la lavande. Puis tu savais comme, après ça, 2 mois après, c'était pas la bonne. C'est ça, tu peux faire.
Et t'es abonné au magazine Marina Orsini.
C'est ça pour dire qu'il y a des excès dans les deux. Puis que la vérité est dans les tons de gris. Donc, d'accueillir l'émotion, d'accueillir le moment, d'éviter les débordements parce que le comportement adéquat est pas mal dans les tons de gris. Ça peut être un peu penché vers le noir, un peu penché vers le gris foncé ou le gris pâle.
50 nuances de gris.
Yes! C'est un film de chercheur. Il y a un fouette frais avec un steak pogné dans le dentier, rentré bien serré avec le chef Didier. Moi, si bien, un moment donné, on était dans le backstore de la cuisine du
Dakar. Dans le donjon du Dakartina.
Le donjon du Dakartina. Là, on faisait vieillir ses beefsteaks, frère. Il me dit, André, viens ici, moi, te faire goûter ma soupe du jour. Une soupe du jour fraîche. Dont j'ai encore un petit goût amer.
Et que...
Le Dakartina, ça coûte pas cher si tu manges des coups de fouette.
Tout cela équipé d'un habit de latex très serré.
Didier avait son petit saut de latex serré et, à ma demande, avait gardé son chapeau de chef. Un chapeau de chef qui ressemble à une poivrière, du poivre frais, qui m'a envoyé sur le bout des yeux. Je voyais plus rien, j'entendais plus rien, mais ce fut suave. Deux balles, deux prises. Je vous dirais que je marchais bizarre à ma prochaine game de baseball. Le chemin entre le marbre et le premier but était très long. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris mon autocar Quaticook Express et que j'ai fait mes prochains transports les fesses assises sur une glacière.
Deux packs de glace entre les parties intimes.
À deux balles, deux prises, par encore à Didier. Didier, merci, Da Cantina. Bonsoir.
Bonsoir.
avec la toune des Muppet Show.
Ben oui, la vie... La
station.
La vie est dans le gris, mesdames et messieurs.
C'est ça. Mais c'est dans la citation que je vous disais, dans le fond, c'est une leçon de prise d'action. C'est plus ça. Fait que d'arrêter de faire du déni ou de forcer une attitude qui n'est pas vôtre. C'est correct de ne pas bien aller, comme c'est correct de bien aller. Il faut juste éviter les débordements, accueillir la situation, vivre les émotions de façon contrôlée, mais passer à l'action. Là. Aujourd'hui, tu barres, c'est correct. Mais demain, le soleil se relève, qu'est-ce que tu fais pour avancer là-dedans? Puis même si c'est tough, tu as un gros sac, que ce soit un deuil, que ce soit une séparation, une grosse mauvaise nouvelle, demain, tout le monde commence à revivre un autre 24 heures. C'est un autre 24 heures neuf, c'est un clean slate. Ce que tu décides de mettre dessus, ça t'appartient totalement. On ne décide pas, on ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle à 100% comment on réagit. C'est pour ça que cette citation-là, pour moi, est importante. Voilà.
Number four.
J'essaie d'en trouver une autre. J'en ai plein en plus, mais là, j'avais comme... Non, je recherche encore, c'est la même affaire, ça. Caress the detail, divine details. Attends un petit peu. We speak not only to tell other people what we think, but to tell ourselves what we think. Oliver Sacks. Mm. Donc, c'est un peu sur les chambres d'écho et aussi le fait que quand vous exprimez ce que... Il y a beaucoup de dialogues et d'explications en temps réel. C'est ce que la citation veut dire. Juste de prendre une réalité que souvent, ce qu'on va dire, ce qu'on va transparaître, ce qu'on va transmettre, souvent dans un dialogue, souvent dans des relations interpersonnelles, pas juste des opinions politiques, là, mais dans des discussions interpersonnelles, dans des relations intimes, quand vous parlez à l'autre, vous n'êtes même pas en train de parler à l'autre, vous êtes en train de vous parler. C'est quelque chose que j'ai tendance à identifier dans le discours de quelqu'un. Quand quelqu'un me parle d'une certaine situation, de lui faire réaliser que là, tu n'es pas en train de me parler. Tu es en train de te parler. Moi, je suis juste un miroir. Ça paraît, si vous êtes sensible à ça, vous allez le voir. Qu'une personne, selon le contenu, selon le sujet, ces personnes-là vont... Vous allez sentir que c'est pas une rhétorique, c'est un monologue. C'est retourné vers eux, ça parle d'eux en fait. Mais si c'est bien récupéré, si vous l'identifiez correctement, vous pouvez emmener la discussion ailleurs. Fait que c'est pas juste de faire un face, mais c'est de faire réaliser à l'autre que qu'est-ce que ça indique, qu'est-ce que ça identifie le fait que présentement tu fais un monologue, que tu renvoies, tu sais, comme un peu dans Ultimatum dans le temps, là. C'est un ricochet, je prends mon ricochet. Fait que moi, j'appelle ça la technique Teflon aussi, mais c'est un peu la technique Teflon, c'est plus quand quelqu'un est très, très défensif, où tu envoies un argument, puis il sort la poêle, ping-pong, ça revient sur toi. Là. Mais soyez attentif à cette méthode de parler-là, ça va pouvoir vous aider. Puis aussi, quand vous parlez, vous autres, là, de savoir ce que vous êtes vraiment en train de dialoguer, d'offrir quelque chose, de pouvoir ouvrir à un échange, où vous êtes en train de vous-même vous auto-convaincre, ou vous-même vous parler, essayer de raisonner avec ce que vous voulez vraiment. Ça a peut-être l'air abstrait de la façon que je le dis, là, mais souvent dans des discussions intimes, vous allez vous rendre compte que c'est ce que vous faites. Ce que vous dites essaie de pallier à des insécurités. Fait que c'est vous qui essayez de vous parler et c'est pas vous qui essayez d'offrir ou d'expliquer ou de vous ouvrir à la personne qui vous écoute. Je sais pas si ça fait du sens, mais voilà.
Numéro 3.
Medicine is not healthcare. Food is healthcare. Medicine is sick care. Ça, c'est Joe DeSena, le créateur de Spartan Race. Puis il a absolument raison. Tout ce qui est la médecine, les médicaments, c'est pas le soin de la santé. C'est le soin des malades. Tu as besoin de médicaments quand tu es malade. Tu vas voir le docteur quand tu es malade. Tu as besoin de la médecine quand tu es malade. Si tu n'es pas malade, pas besoin de médecine. Si tu es en santé, pas besoin de médecine. Si tu es en santé, pas besoin de médicaments. Pis c'est un peu ma grosse approche que j'avais pendant la campagne électorale du Parti conservateur, je ne sais pas, un an, deux ans, je ne me souviens plus, un an et demi. que la santé. On veut régler le problème de santé au Québec ou dans le monde. Ben, c'est la prévention, gang. Fait que arrêtez de rentrer dans l'apanage de la Christie de pilule rapide. Puis il va appeler le docteur pour quelque chose. Là. Il va m'aller le voir. Puis là, moi, me sentir bien. On va faire une petite prescription. Ouais, c'est moi. Et là, OK, je prends ma pilule. Ah, là, je. Plein de ces produits chimiques, je marche vers l'avant. Alors que la prévention, c'est la meilleure santé. Ma stratégie à travers la campagne électorale, c'était, puis on travaille encore là-dessus, ça fait longtemps que je n'ai pas une nouvelle, par exemple, du parti, moi, l'ai relancé. Mais on travaillait sur une très grosse initiative de santé par la prévention. Ça aurait été une première, je pense, en Occident, de vraiment penser autrement. Pour au lieu d'enfouiner des milliards de dollars dans les poches de Pfizer, qu'on sauve de l'argent globalement, de façon communautaire, dans notre communauté, dans la globalité, dans notre citoyenneté, que nos taxes et impôts aillent plus dans des hôpitaux, des soins de santé qui sont désengorgés. Désengorgés, pourquoi? Parce qu'il y a moins de monde qui ont besoin de s'y rendre. C'est le problème de la santé, là. C'est pas juste un problème d'État, là. C'est pas juste un problème, c'est encore moins un problème de financement. C'est jamais, et ça n'a jamais été un problème de financement. Je disais ça à radio, il y a 20 ans que Joanne Marcotte, qui venait de sortir du rapport Castonguay. Vous savez pas c'est quoi le rapport Castonguay? C'est le gars qui a inventé RMQ. Un moment donné, il a dit, moi, m'asseoir, moi, aller étudier le système de santé au Québec. Il a fait un rapport de 350 millions de pages qui est encore en train de pogner la poussière à la SNAT. Joanne Marcotte était sur le panel. On a jasé ensemble dans mon show avec Sam dans le temps. Fait, ça vient quand même d'une opinion pas pire. Ce que j'y disais, puis on était d'accord là-dessus, c'est que le problème en santé, c'est pas le moteur, c'est la christie d'huile, c'est pas l'huile qu'on met dedans, c'est le moteur.
Mm-hmm.
La façon qui est faite. L'huile, là, c'est l'argent. Hein? Il faut plus d'huile. Il faut plus d'huile, il fuit. Il faut mettre beaucoup plus d'huile. Puis là, aux élections, là, vous écoutez la personne qui dit, ben moi, j'amène 3 pains d'huile. Puis le gars à côté dit, oui, nous, on va emmener 3 pains d'huile, mais en français. Puis l'autre, il dit, après ça, nous, on va emmener 3 pains d'huile organique. Full woke, pas gluten, asexué. C'est pas mal ça qu'à l'Assemblée nationale.
Il y en a un avec une paire de lunettes qui dit « Ouais, mais ce serait pas le moteur le problème, tout le monde le regarde. Hey, t'es anti-Québec, toi? »
C'est ça, exactement. Le problème, c'est le moteur. Fait que ça, c'est le système, la façon qu'on a construit notre système. C'est pas l'argent qu'on met dedans. Mais c'est pas le seul problème. Il est biparti, cette problématique-là. Il est bipartite. L'autre problème, là, c'est nous autres. Fait qu'on peut chialer sur le gouvernement, pas de trouble. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi pour pas te rendre à l'urgence? Puis c'est là le gros problème. Puis ça, là, on peut tout demain matin agir là-dessus en temps réel. Mais on fera pas ça. Pourquoi? Parce qu'on est paresseux et on se pense meilleur que les autres. Ça n'arrivera pas. Mais ça va être des gens de la minorité dont je fais fièrement partie. Je vais dire, oh, il est bien prétentieux un matin. Non. Ça fait depuis que j'ai 16 ans que je prends soin de ma santé. Que je sais ce que je mange, je fume pas. Je bois quasiment pas, je bouge tout le temps, et voilà. Je le fais pour moi en premier, pour ma longévité, puis en deuxième, je deviens un poids de moins pour la société. Parce que j'ai trop d'une main pour me compter le nombre de fois que je suis à l'hôpital dans ma vie. C'est drôle, hein? Puis à la COVID, quel COVID? Pas anxieux. J'ai pogné peut-être un rhume, deux rhumes, je sais pas, je suis pas au courant. Mais je suis encore là, je suis encore en train de vous parler. Fait que c'est pas une question de moralité, mais c'est une question de claque en arrière de la tête. Si vous voulez avoir une meilleure santé ou un meilleur système de santé, rends-toi pas là, mais ça prend des efforts. Ah, oh, là, je suis moins intéressé, ça prend vraiment des efforts. C'est facile? Ben non, c'est pas facile. Mais il faut que tu le fasses. Ah, ben là, j'aime mieux chialer assis sur mes grosses fesses sur le gouvernement. Ben, tu fais partie du problème, le gros. En ce temps-là, ben, tasse-toi, ton opinion, elle vaut plus rien. C'est comme un fumeur qui vient me parler de santé. Non, t'as pas le droit de parler, tu l'as perdu. Parce que tu vas être un poids sur la société dans pas longtemps. C'est la cause de maladie la plus importante au Canada. Je vous rappelle qu'au temps de la COVID, les cancers et la maladie cardiovasculaire tuaient de 800 à 600 fois plus. Je pourrais être 8 fois ou 6 fois, c'était 800 %, 600 %. 8 fois, 6 fois. Fait que le troisième, il était troisième de vraiment loin. Et ça, c'est tout des quoi? C'est souvent des causes qui sont attribuées. C'est self-inflicted. C'est des choses où on a le contrôle sur beaucoup de cancers. Ben, c'est ça. Les médecins, quand tu vas les voir, qu'est-ce qu'ils te disent? Ben, bouge, mange bien, bois de l'eau, dors. Ben, Christy, c'est grosse base. Je suis poigné sur un diatribe, sur un rant, mais vous comprendrez que la santé, c'est quelque chose qui va me chercher assez, assez profond.
T'es rendu numéro 3, ça, je pense?
Oui, on est rendu numéro 2.
Numéro 3. Ah, numéro 2, excuse.
Numéro t'es rendu numéro 3 numéro 2? Numéro 2, là.
Numéro 2, good.
Numéro 2. John Lennon disait « Everything will be okay in the end. If it's not okay, then it's not the end.
Mm. »
Donc, c'est une belle leçon de quand la vie a de l'espoir, puis c'est pas rien que quelque chose de superflu. C'est vraiment ça. Si tu respires présentement, tu es dans une situation qui t'est pas bénéfique, tu as le contrôle et le pouvoir de la changer. Parce que comme j'ai dit tantôt, tant que c'est pas fini, c'est ce qu'il disait Pierre de Coubert de Ville. Je crois que Mickey Mantle ou Yogi Berra, un des trois. Là. C'est un gars qui a une cape de baseball qui disait ça. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Mais c'est vraiment ça. Si tu es dans une situation présentement, puis tu respires, tu as le contrôle, tu as le pouvoir de mettre en action une stratégie et t'en sortir, de l'améliorer. Tant que tu respires, tant que tu avances, même que tu ramperais présentement, là, parce que dans des situations très difficiles où tu n'as pas l'impression que tu avances, parce que le rythme est hyper lent, mais au cumulatif de semaines, de mois, tu vas te rendre compte que tu viens de marcher ou de ramper des kilomètres. Fait que tu n'es pas nécessairement en inertie si tu es actif. Il y a des fois que tu vas avancer plus vite, tu vas sentir ta progression, tu vas sentir ton avancement. C'est plus encourageant. Mais dans des situations plus difficiles où là, il faut que tu rampes, c'est là qu'il te faut être bien entouré, d'avoir une structure de support qui est bien établie et d'avoir une bonne résilience pour avoir confiance que présentement, ce que tu fais, ça contribue à avancer. C'est une montagne, ça peut avoir 14 000, 30 000 pieds, mais ça se monte un Christ de pied à la fois, fois 14 000. Fait que si tu te fais un constat, à chaque fois que tu montes juste un pied, Christi, c'est bien pas haut. 3 pieds, Christi, c'est bien pas haut. 4 pieds, Christi, il m'en reste encore 14 397. Ben, tu vas te décourager. Mais si tu es focus sur le sommet ou sur ton objectif, puis tu avances pendant X temps, puis là, tu te retournes et tu dis, « Ah, Christy, 3000 de fait. » C'est à tough, mais Christy, 3000 de fait, c'est quasiment le tiers, c'est quasiment le quart. Let's go, on continue. Ça, c'est plus encourageant. Mais petit mouvement par petit mouvement, relentless action, le rythme, c'est, je pense, c'est la situation qui va le dicter ou ta résilience. Mais en continuant d'avancer, tu vas te rendre à ça. C'est bon, c'est la citation de John Lennon. If it's not okay, it's not the end.
Number one, numéro un.
Puis la plus meilleure de toute ma vie pour moi, c'est celle qui est indiquée sur le mur de mon gym, dans mes fonds d'écran, puis whatever. C'est la seule phrase inspirante qui est inscrite dans mon centre et c'est la seule qui y sera. Et c'est mon idole Walt Disney qui l'a fait, qui l'a mentionné. C'est « Whatever you do, do it well. » That's it. That's all.
Aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que je vis ma vie depuis que j'ai 15, 16, 17 ans. Depuis que j'ai commencé mes projets. De tout le temps faire mon maximum dans peu importe ce que j'entreprenais. C'est la règle du 80% est excellente. De faire tout le temps tout à ton max. Peu importe la situation, ça sera ton max dans cette situation-là. C'est comme aussi la différence entre regret et remords. Si présentement, je suis dans une situation X qui peut-être affecte mon rendement normal, entre guillemets, fait que je sais que présentement, je ne suis pas à mon 100%. Je suis, mettons, à mon 70%. Mais tout ce que je peux faire présentement, c'est 100% de mon 70. Si je fais 60 de mon 70, calculé, là, ça fait encore un rendement encore plus bas. Fait que tout ce que vous pouvez faire, c'est un peu... Une leçon aussi, la numéro 4 dans les Four Agreements, « Always do your best ». Ça s'intertwine un petit peu. Peu importe ta situation, aujourd'hui, demain, hier, fatigué, pas fatigué, pétant d'énergie, heureux, malheureux, fais le meilleur que tu peux aujourd'hui. Puis peu importe dans ce que tu entreprends, aie la fierté de dire que c'est ton nom qui est dessus. C'est toi, ça parle de toi. Si ça te représente toi, ça soit un projet, un papier à remettre, un dessin crayon là, c'est toi. Fait que dans mes projets d'école, dans mes projets professionnels, dans mes lubies, dans mes entreprises, c'est la motivation principale. C'est tout le temps faire mon maximum. Puis je vous dirais que ça m'a vraiment bien servi au cours des années. Puis j'essaie de m'identifier et d'aduler des gens qui ont cette attitude-là, qui ont sais, je suis rien là, dans la vie. J'étais un clown. Je suis bien au courant. Il y a des gens qui ont fait des choses beaucoup plus grandes que moi, puis qui ont cette attitude-là. Puis eux autres, c'est mes idoles, des gens comme Georges Saint-Pierre, des gens comme Walt Disney, qui justement tous les jours font le meilleur de ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Tu vois un gars comme Georges Saint-Pierre avec les problèmes de genoux qu'il a connus, tu le vois comment il a fait sa réhabilitation, comment tous les jours il était quasiment obsédé par son rendement, par son amélioration. C'est un peu la quête aussi d'un artiste martial, c'est la quête incessante de l'idéal, de la perfection, en sachant très bien que la perfection n'est jamais atteignable. Fait que c'est comme de se mettre dans une quête vers la perception, la perfection, en sachant très bien que c'est une quête qui finira jamais. Mais pendant que tu as fait, par exemple, toi, tu évolues énormément.
Il y a eu le hockey de son docteur hier, GSP, j'ai vu passer ça. Fait que, il a comme fait des tests, parce qu'il y a eu, je pense, il y a eu un accident où il y avait de quoi, je peux justement relier son genou ou quoi que ce soit. Mais semble-t-il qu'il y a eu enfin le hockey du docteur pour commencer tranquillement à s'entraîner. Fait que.
Good for him. Ouais, mais il participait à une compétition, faisait son retour, mais en compétition BJJ seulement. Okay. Il avait annoncé ça il n'y a pas longtemps à UFC, ça passait sur le UFC Fight Pass. Donc, je pense que c'est ça qu'il va aller retourner. Il va retourner faire de la compétition de Jiu-Jitsu, qui est moins dommageable dans un certain ensemble de règles que du MMA, évidemment. Mais pour quelqu'un compétitif comme lui, vous voyez, c'est encore une fois, le gars n'arrête pas, là. Dans la quarantaine, puis comme, puis tu sais, ça a l'air facile l'extérieur, là.
Ah, ça, c'est pas.
Mais de compétitionner, entre guillemets, à son âge, mais c'est encore, c'est de plus en plus relatif. Mais au niveau qu'il s'entraîne, puis au niveau qu'il compétitionne, ça n'a pas de sens. Il faut le faire juste un peu dans sa vie, un peu de sport de compétition, pour comprendre à quel point ça demande des sacrifices et un rendement et une discipline héroïque, là. Il faut vraiment apprécier un homme de cette valeur-là. C'est extraordinaire. Ça a tellement l'air facile de l'extérieur et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile de l'intérieur quand tu le sais un petit peu. C'est fou, là. Fait que c'est pour ça que l'admiration est grandissante plus t'en fais quand tu compares à ces élites-là. C'est vraiment des élites. C'est pour ça que ces gens-là inspirent les autres. Fait que pour moi, c'est des grandes personnes. Puis c'est des gens qui... Tu sais, je te parle, puis j'ai mes cartes de UFC à côté, puis c'est quasiment toute la face de GSP qu'il y a dessus. Il y a le film Red Belt qui m'a énormément inspiré, qu'on pourra parler un moment donné. Mais c'est des gens qui, moi, m'ont inspiré, qui ont cette attitude-là. Peu importe ce que tu fais, fais-le correctement. C'est une belle leçon de rigueur pour les enfants. C'est un travail à remettre. Fais-le correctement. Ta feuille est sale, va retaper ton affaire. Aie de la fierté à présenter tes choses, parce que plus tard, c'est une attitude que tu vas avoir entraînée, puis quand ça va compter vraiment, genre, un travail que tu veux. Puis cette leçon-là, là, je la fais à mes élèves de sport-études, puis je la fais aux jeunes qui côtoient mon centre d'entraînement. La journée que moi, je suis directeur de l'embauche à la ronde pour les emplois d'été, puis tout le monde s'arrache les emplois d'été qui sont vraiment cool, comme la ronde. Parce que ça ne te tente pas de travailler peut-être dans une cuisine de McDo, une cuisine de Tim Hortons. Parce que ça te tente de passer ton été dehors, rencontrer des gens, peut-être faire ta première blonde puis faire ton premier chum, puis avoir vraiment une job cool de dire que moi, aujourd'hui, là, ce que j'ai à faire, c'est mon petit sac, mon petit lunch, je prends le métro, m'en va travailler parce que je suis opérateur au Vampire. Puis après ça, le matin, je peux me faire une ride gratis. Puis le soir, je peux me faire une ride gratis. Puis je me dis, tu sais, tes jobs cool là. Puis moi, il faut que je fasse une équipe forte. Puis j'ai une pile de CV, ça de haut, parce que tout le monde fait ce job-là. C'est une job cool. Moi, je vais prendre qui? Bien, la personne ou le jeune qui se présente, puis qui est droit, puis qui est fier, qui me regarde dans les yeux, qui n'arrive pas avec un CV tout défait, tout débabougri, avec une tâche, ouais, mais mon chat. Parce que moi, ça m'indique une attitude. Parce que moi, je vais avoir les meilleurs dans mon équipe. Je vais être sûr que les gens s'entendent bien, qu'il y a un rendement dans mon entreprise, que j'ai confiance que tu n'auras pas un tweet des gens dans le même trou qui va faire comme « Êtes-vous prêt? Un start button! » Même s'il y a des redondances dans les systèmes de manège, vous avez compris l'image. Mais si les jeunes peuvent apprendre ça, quand tu arrives dans quelque chose d'important, ils n'auront pas à se forcer, ça va déjà être, ils vont se démarquer des autres. Fait que « Whatever you do, do it well », c'est applicable surtout aux adultes. C'est une grosse leçon de rigueur, en fait. Fait que voilà, c'était mes 10 phrases et les leçons que j'ai en retirées dedans. Des fois, je peux partir de façon un peu plus explosive, passionnée dans mes envolées, mais vous me connaissez, je suis un peu de même. Peut-être une ou deux avant qu'on parte, les gens qui ont écrit.
Ouais, ben c'est ça. Ben, en fait,
j'en ai joué, mais regarde, t'en as.
Ouais, j'en ai, ben, je vais donner. Regarde, écoute, s'il si y en a qui recompte, puis finalement, on en a fait 9, ben celle-là, ça va être la 10e. Sinon, okay. Sinon, ça va être la 11e. Ça va être la
bonus.
Session bonus numéro. Regarde, bonus time. C'est mon petit côté geek gamer qui ressort, mais il y a une citation d'un de mes jeux que j'ai passé beaucoup trop de temps dessus, Skyrim, d'un dragon en plus, puis ça m'avait comme marqué, puis ça a beaucoup d'en en parlé. What is better, to be born good or to overcome your evil nature through great effort? De Parturnax. En fait, c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est meilleur, d'être né bon ou de surmonter sa nature maléfique à force d'effort? C'est... Parce que dans cet univers-là, en fait, disons que les dragons, ils naissent un peu que les humains, ils les aiment pas vraiment. Ils ont plus le goût de les bouffer. Fait que lui, ça y a pris longtemps, mais en méditant sur lui-même, justement, puis c'est un des premiers, entre guillemets, de son espèce à être comme semi-amical avec la race humaine, puis à lui apprendre des trucs. Fait que ça a beaucoup de signification, du moins en général. Puis c'est vrai que c'est quelque chose, parce que tu te dis, autant qu'il y a des gens, puis c'est vrai qu'il y en a qui sont... Bien sûr, la vie, c'est pas juste un lancer de dés. Là. Je comprends qu'on reçoit un package de base, mais en même temps, ça fait pas uniquement ce que tu fais de toi. Tu sais, tu te forges au fil de ta vie, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on peut naître avec une nature plus positive ou une nature un peu plus maléfique, dans le guillemets. Puis tu te dis... Encore là, tu sais, ça veut dire que tu es un ange jusqu'à la fin de tes jours. On fait tous des erreurs, on a tous des défauts, puis parce qu'il n'y a personne de parfait. Mais justement, la question se pose, puis en tout cas, ça m'avait fait beaucoup réfléchir la première fois que je l'avais entendu, puis c'est rendu c'est une citation classique du monde du gaming pas mal. Fait que je voulais vous la partager aujourd'hui, ça rend pas mal dans le thème.
C'est très bon, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, on choisit pas ce qui nous arrive, on contrôle totalement comment on y réagit. Puis j'ai Robert qui en a une pas pire, c'est de Baden Powell, « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis ». J'adore celle-là.
Yeah, good things come... Ben c'est pas une variante de Good things comes to those who wait, c'est ça?
Non, c'est pas... parce que ça serait le contraire.
C'est le contraire, hein?
Le contraire.
C'est comme le némésis de Baden Powell, finalement.
Ben c'est pas nécessairement le némésis, c'est pas une question d'inactivité. La deuxième, Good things come to those who wait, c'est une question de persévérance, de résilience et de patience.
C'est ça, puis de pas être trop hâtif, finalement. Là.
Pas exactement, trop... c'est pas une question d'inaction.
Non, c'est ça.
Il y a certains processus, en fait, les processus qui ont une certaine valeur, qui sont importants, qui sont imposants, c'est pas des processus qui sont rapides. Par exemple, un bac universitaire, un doctorat universitaire, une ceinture noire en karaté, c'est des années d'investissement. Fait que tu peux pas l'avoir tout de suite, puis c'est ce qui donne la valeur aussi à la chose. Puis souvent, se retirer de l'équation devient la solution à ta problématique. Fait que c'est tout ça là, qui est dans les nuances de « Good things come to those who wait ». Puis j'adore aussi celle de Robert qui a pris le temps de nous la partager. Merci.
Yes.
Celle de Baden Powell. Si vous en avez d'autres, gang, mettez-les dans les commentaires. Je vais les lire pendant ma journée aujourd'hui et demain. Tout le temps, un gros plaisir de partager avec vous. Puis on pourra peut-être faire dans la description, là, on pourra peut-être faire une liste là, des 10, là, les écrire pour vous. Ça pourra faire un bon copier-coller si vous voulez une référence plus tard.
Good, parfait.
Voilà, gang. J'espère que ça vous a inspiré. Yes. Ça vous a donné un petit coup de fouette si vous en avez besoin ou une tape dans le dos si vous en avez besoin. Pour finir votre semaine en feu puis commencer votre fin de semaine de la même façon.
Good. Bon week-end, tout le monde.
Bye. Yes.